est une rediffusion.
RFI, grand reportage.
Le Brésil ne prend pas soin de l'Amazonie. C'est nous qui sommes en train de donner notre vie pour l'Amazonie. Ce sont nos fils qui sont là, nos maris. C'est notre maison qui est ici. C'est nous qui savons ce que nous ressentons.
L'Amazonie brûle. Au-delà du drame environnemental, la vie des tribus autochtones est également menacée. Depuis son élection, le président brésilien Jair Bolsonaro encourage ouvertement l'exploitation des terres amazoniennes au détriment des droits des populations indigènes. Et les heurts se multiplient. Face à cette situation, les femmes tentent de s'organiser. Direction l'état de Rondônia, proche de la frontière bolivienne. Défense de l'Amazonie, le combat des guerrières indigènes, un grand reportage d'Oriane Verdier.
Pour entrer en terre indigène, il faut tout d'abord cheminer plusieurs heures sur une piste de terre rouge. Le van qui transporte les femmes jusqu'au lieu du rassemblement des guerrières indigènes de Rondônia s'enfonce petit à petit dans une forêt plus dense. Accroché à un arbre, une pancarte, interdiction d'entrée. Ma voisine m'explique.
C'est ici que commencent les terres. À partir de ce point, seules les personnes autorisées par les indigènes locaux peuvent entrer et poursuivre leur route. Ce sont les lois du peuple qui vit sur ce territoire qui priment ici. La pancarte précise le nom des terres, la loi qui les délimite et l'interdiction d'entrer, mais aussi de pêcher et de chasser.
Il nous faut rouler encore 2 heures au milieu des arbres avant d'arriver à une grande clairière parsemée de petites huttes. Un homme, short, t-shirt et casquette, nous accueille.
Je suis Luis, d'Etnia Tupari, cacique de l'aldeia Jatobá.
Je m'appelle Louise du peuple Tupari. Je suis le cacique du village Jatobá. Le cacique, ce n'est pas celui qui dirige, mais plutôt celui qui guide en écoutant la communauté. Ici vivent 6 familles, on est tous parents. On vit de l'agriculture, on a planté du maïs, des haricots rouges, du manioc, de la banane, des cacahuètes. On élève aussi des poules, des oies et quelques vaches, mais tout en petite quantité, uniquement pour notre consommation.
Et mexemos un pouquinho também com criação de gado, mas é pouca coisa, só mais pour consumo.
Ici, le peuple Tupari vit le long du fleuve Rio Branco. Plusieurs petits villages perdus dans l'immensité de la forêt amazonienne.
Sur la zone terrestre, il faut passer par plusieurs villages pour arriver jusqu'au nôtre. Ensuite, il y a encore une famille à Tucumã. Après Tucumã, il faut continuer le voyage en bateau pour rejoindre ce que l'on appelle les villages fluviaux. En partant d'ici pour rejoindre le dernier hameau, comme le fleuve est bas, il nous faudrait 12 heures de voyage. Tous ces habitants doivent passer par notre route pour rejoindre la ville d'Alta Floresta.
Luis et ses fils se mettent au travail. Ils tressent d'immenses branches de palmiers pour faire de l'ombre au rassemblement des représentantes indigènes de l'état de Rondônia. Avant le début de la réunion, chacune se recouvre de peinture de guerre. Maria, un fruit à la main, un pinceau dans l'autre, dessine des rangées de petits points sur le bras d'une jeune fille.
Ce sont des peintures pour aller au combat, mais aussi pour les fêtes, des peintures de guerrières. C'est important pour nous de montrer aux autres peuples comment nous nous peignons. Chacun a ses traditions et des peintures différentes. Ces motifs-là sont pour les jeunes filles. Celui-là, il vient d'un autre peuple. Bien sûr, on fait ça aussi pour que ce soit joli. C'est comme le maquillage, les blanches qui se recouvrent de maquillage. La teinte vient du jenipapo vert. C'est un fruit qu'on mange aussi quand il est mûr. Et ça part au bout de quelques jours. Ou plus vite, si on utilise le produit des blancs, comment ça s'appelle déjà? Le démaquillant. Ça part plus vite comme ça.
À côté de Maria, Mandei et sa nièce regardent les artistes au travail. Elles sont déjà maquillées, deux traits prolongent la bouche, d'autres semblent dessiner des vagues sur le menton.
Ce sont des tatouages qui ne partent jamais.
On le fait quand la fille est formée. Les hommes n'en ont pas. Ce ne sont que les filles. Ça ne fait pas trop mal, mais ça reste pour toute la vie, donc ça doit être bien fait.
Les traits là, ça vient du cobra. On disait autrefois que cela nous protégeait des serpents quand nous allions dans la forêt. Je l'ai fait à mes 11 ans. Chaque fille formée devient une femme et peint ses motifs. C'est une manière de préserver nos cultures.
Les peintures terminées, plus d'une centaine de femmes se réunissent sous un toit de paille. Le but, trouver une solution pour se défendre, avant tout face à ceux qu'on appelle ici les envahisseurs. Ces hommes qui viennent voler des arbres et autres richesses naturelles. Certains s'accaparent des terres et les brûlent pour y faire paître leur bétail.
Vamos parar de sentar aqui, cadê as mulheres?
Bom dia. O nosso presidente atual, antes ainda como candidato, ele se colocou.
Déjà en tant que candidat, notre président actuel s'est clairement positionné contre nous. Il n'y a pas de réelle proposition pour trouver une manière de combattre la destruction en Amazonie. Le problème, ce ne sont pas uniquement les incendies. Ça passe également par l'accaparement de nos terres, le vol d'arbres protégés. C'est aussi la tentative au sein du Congrès de faire passer des lois qui légalisent la commercialisation et l'exploitation minière de nos terres.
Arrendamento das nossas terras, de se legalizar mineração dentro do nosso território. O Brasil ele não está cuidando.
Le Brésil ne prend pas soin de l'Amazonie. C'est nous qui sommes en train de donner notre vie pour l'Amazonie. Ce sont nos fils qui sont là, nos maris. C'est notre maison qui est ici. C'est nous qui savons ce que nous ressentons.
Pour l'occasion, le préfet de la zone a fait le déplacement. Il a une analyse bien différente de la situation.
Cette polémique qui circule à l'étranger, ce ne sont que des informations qui n'existent pas dans la réalité. Les incendies, ça existe, mais ça existe depuis des années. C'est un phénomène naturel, propre aux périodes de sécheresse. Mais tout le monde prend grand soin de l'Amazonie. L'agriculteur doit travailler et exister, bien sûr. Les gens ont besoin de manger. Surtout que le Brésil est un des plus grands producteurs de céréales et de viande. Il faut bien que l'on puisse planter et récolter pour répondre à la demande, non seulement nationale, mais aussi du monde entier.
Até não só da nossa nação, mas do mundo todo, mas todos já têm a consciência que vem respeitando a parte do meio ambiente.
Ceci étant, tout le monde reste conscient de la nécessité de respecter l'environnement. Chaque producteur respecte et préserve une partie de la forêt sur ses terres, tout comme les indigènes. Ce qu'on raconte dans les médias à l'étranger n'est que politique. C'est répugnant et ça arrive dans le monde entier.
Walter Lee n'a pas perdu un mot des paroles du préfet. Son visage exprime l'indignation.
Je ne sais pas quoi dire. C'est très beau qu'il soit ici. Mon Dieu, il est venu jusqu'ici. Mais à partir du moment où il a commencé à tenir ce discours pendant l'interview, il est redevenu comme n'importe quel homme politique qui est contre nous. Là où mon peuple vit, où les Purubora vivent, c'est entouré d'agriculteurs. Nous voyons des gens qui détruisent, qui brûlent. L'agence de contrôle du gouvernement vient et leur inflige des amendes, mais ils ne payent pas. C'est pour ça qu'ils continuent à détruire et brûler. Nous, nous recevons des menaces parce qu'on lutte pour que notre terre soit délimitée. Ils disent « Vous voulez prendre nos terres? Si vous n'arrêtez pas, vous allez mourir. À tout moment, on peut vous retrouver mort. Je ne sais pas quoi, on va tuer votre famille. » Notre cacique est menacé de manière directe, mais ce n'est pas pour ça qu'on abandonne. Nous, on leur dit « Vous pouvez nous tuer, mais si un Purubora tombe, la lutte continuera. »
Mais alors comment ça se passe concrètement? Les agriculteurs brûlent autour ou sur vos terres?
Là où nous habitons, les terres Purubora ont été délimitées par le maréchal Rondon lui-même. Mais ensuite, le gouvernement est arrivé et les a divisées en parcelles de terrain pour les donner à d'autres personnes. Là où nous habitons, c'est mon beau-père qui a acheté la parcelle. Donc maintenant, il y a des parcelles où nous vivons. Et pour aller voir une autre famille, il faut passer par le terrain d'un agriculteur. Et certains, quand ils regardent les archives, ils voient que la terre à l'origine appartient au Purubora. Alors ils se disent, je ne vais plus travailler ici, je vais vendre. Alors ils vendent à quelqu'un d'autre. Et le nouveau propriétaire s'énerve à son tour parce qu'il vient d'acheter et il a peur de perdre ses terres face à nous. Si on regarde les délimitations correctes, leur ferme fait partie de nos terres. Mais ce n'est pas notre faute. Les coupables sont les agences de l'État qui ont décidé de découper les terres et de la leur donner. De notre côté, depuis 1919, la loi dit que ces terres sont pour Oubora grâce au maréchal Rondon. Alors oui, il y a des gens qui vivent là depuis 10, 20 ans. Mais ça fait combien de temps qu'on a octroyé ces terres au pour Oubora? Bien plus longtemps.
En 40 ans, Walter Lee a vu le niveau de l'eau du fleuve des terres Puruburra diminuer progressivement. Elle affirme que les poissons qui y nagent ne sont plus mangeables, contaminés par les pesticides. Ici, en Terre Tupari, on trouve encore de quoi se nourrir dans les eaux du Rio Branco. Sur une table de bois, un jeune homme découpe un poisson de près de 2 mètres de long.
Ça vient d'ici, du Rio Branco. On le pêche la nuit avec des flèches. Parfois, on l'attrape avec une canne à pêche, mais c'est un poisson très puissant. Donc si la ligne n'est pas grosse, elle casse.
Il sera ensuite cuit dans une marmite sur un grand feu de bois.
J'ai rajouté des oignons, de la tomate, de l'huile. C'est un plat traditionnel ici. Il faut toujours qu'il y ait du poisson. Si un Indien ne mange pas de poisson, ce n'est pas un vrai repas.
Après le déjeuner, les femmes laveront la vaisselle dans l'eau du fleuve. Pour l'heure, ce sont les enfants qui en profitent pour se rafraîchir. Sur la rive, Mandei les observe, le regard absent. Elle pense à sa famille qu'elle a laissée dans son village. Plus d'un jour de voyage les sépare.
Sur nos terres, il y a beaucoup d'invasions. Il y a surtout des chasseurs qui viennent. Ils volent du bois et nos animaux. Les voleurs nous menacent et disent que le gouvernement les a autorisés à entrer sur ces territoires pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Ils disent que c'est une grande réserve pour une petite population Uruwe ou Awa. Les plus âgés de nos hommes disent maintenant que si la Funai ne répond pas, ils vont agir. Mon père dit qu'il va les tuer. C'est ça qui nous fait peur. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant, il n'y a pas Internet.
Sous l'autorité de Jair Bolsonaro, la Funai et la Fondation de l'Indien semblent en effet paralysées. Alors que la situation de son peuple empire, Mandei, quadragénaire, se souvient de la souffrance de ses parents.
Ma mère me raconte que lorsqu'ils ont eu le premier contact avec les Blancs, j'avais 4 mois. Aujourd'hui, elle a dit à ses petits-enfants, nous souffrions beaucoup parce que les Blancs attaquaient pendant la nuit. On prenait seulement une petite torche et nous partions en courant pour nous cacher. C'était dur. Je me souviens très peu du visage de mon père biologique. Il est tombé malade quand les Blancs sont arrivés. À l'époque, il a dit à ma mère qu'il préférait mourir plutôt que de vivre un futur au milieu des Blancs. Il a dit, non, je ne vais pas prendre les médicaments des Blancs. Il avait prédit que notre vie allait être faite de souffrances et aujourd'hui, nous sommes menacés.
Les femmes se sont rassemblées en silence autour de la musique de leurs ancêtres. Une d'entre elles se tient la tête haute. Elle porte une volumineuse coiffe de chef indien garnie de plumes multicolores.
C'est une coiffe du peuple Arara. C'est un grand chef Arara qui me l'a offerte pour toute la lutte que j'ai menée pour eux. Ils m'ont connue très jeune dans cette lutte contre la déforestation. La première fois que j'ai vu le chef avec une telle coiffe, je me suis dit que je voulais en avoir une comme ça. C'est une coiffe très masculine, mais des années plus tard, il m'en a offert une.
Aujourd'hui, Ivaneida Bandeira est l'une des figures de la lutte pour les droits des indigènes. Elle a fondé son association Canidé il y a bientôt 30 ans.
Aujourd'hui, nous subissons beaucoup plus de pression qu'avant sur nos terres. Le président actuel encourage l'appropriation, le vol des terres. Toute mon équipe souffre de menaces de mort. J'aide les femmes à déposer des plaintes, je les accompagne devant la justice. Je vais à Brasilia avec elles, au Congrès, pour faire entendre notre voix. Je les aide à faire des documents contre les envahisseurs. Je vais aussi sur le terrain pour les expulser. On arrive à savoir où ils se trouvent, on y va et on les oblige à partir. Les indigènes y vont avec des arcs et des flèches. Ils savent comment avancer dans la forêt sans être repérés dans un silence de mort. Quand les envahisseurs s'en rendent compte, ils sont déjà encerclés. Eux, ils ont des armes à feu, mais ils sont pris par surprise.
L'association d'Ivaneïda, comme beaucoup de projets environnementaux, était financée en grande partie par le Fonds Amazonia, suspendu depuis quelques mois.
Le Fonds Amazonia nous aidait beaucoup. C'est un programme du gouvernement qui soutient les associations et les organisations pour mettre en place les projets de protection de l'environnement, de développement durable et de conservation de la culture. Les fonds pour l'environnement dépendaient beaucoup de ça. Or, les principaux donateurs sont la Norvège et l'Allemagne. Le gouvernement brésilien avait décidé d'utiliser ce budget pour le secteur de l'agroalimentaire plutôt que pour la défense de l'environnement. Mais c'est pour lutter contre la déforestation en Amazonie et pour garantir les droits des indigènes que ces pays nous donnaient de l'argent. Donc ils ont décidé de se retirer du programme.
Pour la question du meio ambiente, pour garantir les droits indigènes et si le gouvernement allait faire ça.
La lutte des guerrières indigènes se situe parfois au sein même de leur communauté. Devant l'assemblée de femmes, Janie s'avance. Elle a les cheveux noirs et lisses, une frange droite et un sourire timide.
Parfois, je suis triste quand je pense que ça fait déjà 6 ans que nos propres chefs ont autorisé l'extraction de bois dans notre communauté. Les femmes et les enfants sont les premiers menacés. En tant que mère, ça m'inquiète beaucoup, car cela cause des problèmes d'alcoolisme, de drogue et d'exploitation sexuelle. Souvent, la mère elle-même donne ses enfants au bûcheron et échange sa propre fille pour de l'argent. La seule manière de nous défendre est de ne pas se taire et de dénoncer ce qui se passe au sein de notre communauté.
Du haut de ses 24 ans et malgré sa voix tremblante, Janie a donc organisé la rébellion au sein des femmes de sa communauté.
J'étais très inquiète. Comme les autres chefs n'avaient plus de force, il fallait que quelqu'un d'autre garde la communauté soudée. Notre propre cacique s'était livré par amour pour l'argent. Je le dis très clairement, les hommes mariés vont à la ville et dépensent tout l'argent. Ils ne pensent plus aux enfants et aux épouses. Alors je me suis organisée avec les autres femmes. On s'est dit, est-ce qu'on va vraiment laisser les choses se passer sans rien faire? Nous sommes en train de donner nos terres aux non-indigènes, aux Syriens. C'est comme ça qu'on a commencé. Ainsi, si nous ne trouvions pas de solution par le dialogue au sein de notre communauté, nous dénoncions les activités illégales à la justice. Ces derniers mois, nous sommes arrivés à diminuer les intrusions sur nos terres. Mais l'invasion va avoir lieu maintenant. Les orpailleurs qui ont été arrêtés ont été relâchés. Ils disent qu'ils sont en train de s'organiser pour envahir nos terres. Ça nous inquiète beaucoup. On ne sait pas de quoi sera fait le futur de notre communauté. Voilà ce dont je voulais parler avec vous toutes. Il faut lutter réellement pour vos droits, pour votre communauté.
Aux yeux de Janie et de beaucoup de ses camarades de lutte, l'avenir des peuples indigènes se trouve aujourd'hui dans l'éducation. Nombre d'adolescents décident donc de quitter leur communauté pour intégrer le lycée le plus proche, qui se trouve généralement à plusieurs heures de bateau ou de bus. Une difficile épreuve d'immersion dans la société de ceux qu'ils appellent les Blancs, c'est aussi l'opportunité de suivre une formation agricole. Entre désir de développement et nécessité de protéger la terre de leurs ancêtres, les caciques de demain veulent mêler traditions et nouvelles techniques pour vivre en harmonie avec la forêt amazonienne.
Défense de l'Amazonie, le combat des guerrières indigènes, un grand reportage d'Oriane Verdier, réalisation Ludivine Amado, à retrouver également sur RFI.fr.